Je vous invite à imaginer un tableau de Noël, mais pas une crèche, pas un sapin avec les cadeaux en dessous, mais un aéroport. Avec son hall d'arrivée, et imaginez qu'il y ait une ONG qui vous a envoyé à l'aéroport pour accueillir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais vous êtes habitué à l'histoire, vous avez déjà accueilli M. Martin de Paris ou M. de Meesmaker de Bruxelles. Mais celui-ci, vous ne le connaissez pas, mais vous avez votre petite affichette avec son nom écrit dessus. Et vous en êtes toujours bien sorti, mais aujourd'hui, on vous a donné un nom étrange. Vous êtes censé accueillir, vous êtes là à l'aéroport, à la porte de sortie, accueillir Monsieur le Sauveur. Et vous êtes là avec votre petite affiche, comme d'habitude, mais avec ce nom Monsieur le Sauveur, et vous vous demandez, mais à quoi ça ressemble, un sauveur ? Ça ressemble à quoi ? À un scientifique qui a la réponse à tout, à un politique qui a toutes les solutions lui aussi, à un économiste qui répond par des statistiques. Et puis de quel continent ça peut venir, le sauveur ? Quel âge pourrait-il avoir ? Vous savez pas trop, mais en même temps, vous dites, avec un nom comme ça, il doit venir avec une délégation d'assistants, vous allez bien le reconnaître, il va venir avec un petit groupe autour de lui. Vous vous étonnez d'ailleurs que personne d'autre que vous n'attend ce monsieur le sauveur. L'avion se vide, plus personne dans le hall de l'aéroport, juste un couple assez commun, assez banal, avec un bébé d'un mois dans un berceau. Tout le monde commence à s'en aller, sauf un vieux monsieur qui vient vers le couple et l'enfant, qui prend le bébé et qui dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en allait en paix, tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu Monsieur le Sauveur, qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Une hôtesse de l'air qui passait par là s'arrête un peu surprise de ce qui se passe dans son aéroport. C'est pas tous les jours quand même qu'on entend le cantique de Siméon, parce que c'est de cela dont il s'agit, du cantique de Siméon que cet homme prononce quand il voit Jésus au temple. Alors, comment a-t-il su notre ami Siméon ? Eh bien, il semble que Siméon ait reçu des informations d'en haut, qu'il soit guidé par un personnage haut placé dans les services secrets, qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce que dans les versets précédents, l'évangéliste Luc insiste sur le fait que cet homme était rempli de l'Esprit. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint à l'aéroport, je veux dire au temple. C'est donc le Saint-Esprit qui guide les pas de Siméon vers l'enfant qui n'a pas vraiment l'air d'un sauveur d'ailleurs. Alors comment ces pas sont-ils guidés ? Comme souvent le texte ne le dit pas, pas de visite particulière, pas d'étoile filante, pas de voix off. Peut-être simplement une conviction intérieure. Une force pressante, ou une conviction intérieure forte, pressante, qu'aujourd'hui, il doit aller au temple. Sa femme lui a peut-être dit, « Qu'est-ce que tu vas faire au temple, Siméon ? Profite de ta retraite. Tu peux, tu es dans la bonne génération qui peut profiter de sa retraite. » Et Siméon lui répond, « Je ne sais pas, mais je dois y aller. » Et sa femme peut-être de lui lancer, « Oh là là, Siméon, tu vieillis quand même. » Et Siméon de lui répondre, « Ça, je le savais aussi que je vieillissais. Mais je dois aller au temple. » Et là, quand il arrive au temple, il sait pourquoi il devait venir, pour voir cet enfant d'à peine un mois, un enfant qui ressemble à tous les autres, qui gazouille comme les autres, qui pleure peut-être comme les autres. Mais Siméon voit plus loin parce qu'il a les yeux de l'esprit, il a les yeux du cœur ou les yeux de la foi, et il va prononcer ces paroles qui vont impressionner les parents, comme le disait Paul tout à l'heure. Et le verset 33 de Luc 2 le dit, le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il, Siméon, disait de lui. Pourtant, Marie et Joseph en avaient déjà entendu des paroles sur leur enfant, des anges qui font des annonces, des bergers qui chantent des louanges, des mages qui offrent des cadeaux royaux. Mais les paroles de Siméon vont au-delà de ce qu'ils ont déjà entendu. Siméon parle d'un sauveur qui vient, une lumière pour les nations, gloire pour son peuple, et ce sont des mots qui restent. Mais Siméon va rendre l'enfant à ses parents et il va ajouter des mots qui vont rester aussi. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. » Quant à toi, Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Cet enfant que j'ai dans les bras, il est là, il est établi, il est destiné pour la chute et le relèvement de beaucoup. Déjà, l'ambiance retombe. L'ambiance de Noël retombe. Comment ça, de la chute ? Ce petit bébé est là pour le salut ? La gloire, la lumière, comment serait-il aussi pour la chute de beaucoup ? On est frappé par ce mot tellement négatif. Soit il vient pour le relèvement, littéralement, dans le grec, la résurrection de beaucoup. Et Noël est avant tout une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie, dit l'ange au berger. Paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté, chantent les anges. Pour les personnes de bonne volonté, il faut être dans de bonnes dispositions, sinon ce petit enfant pourrait être effectivement une occasion de chute. Tout dépendra de ce que l'on fait de ce petit enfant, si on le prend dans ses bras et qu'on le reconnaît comme Monsieur le Sauveur ou comme son Sauveur. Là, alors, il est un renouvellement, un renouveau. Mais si on laisse l'enfant dans sa crèche comme une image pieuse peut-être, mais tout à fait inopérante, si on passe sans le voir, si on n'attend rien de la vie ou dans la vie, alors il sera une occasion de chute. Une pierre contre laquelle le pied vient buter. Jésus, le Sauveur, est une nouvelle à double effet. Et Siméon nous le rappelle en deux petits mots. La question de Jésus peut nous faire trébucher ou nous relever. Ce petit bébé dans les bras de sa mère va faire du grabuge dans les chaumières. Alors durant les vacances de Noël, on a l'impression quand même de retrouver une certaine unité dans la paix, dans la joie. On passe les 10 commandements à la télé, là il y a presque une unité religieuse, plus ou moins religieuse, où on passe aussi la grande vadrouille, mais c'est autre chose. Il y a des crèches un peu partout, il y a des messes de minuit qui vont faire le plein de fidèles, plus ou moins fidèles. Et on peut avoir l'impression de retrouver une certaine ferveur autour de la personne de Jésus. J'ai aussi l'impression que cette unité n'est qu'une impression et qu'elle est légèrement fabriquée et elle est faite de façon assez artificielle. La seule unité peut-être qui se fait, c'est autour du grand sapin de Noël au centre-ville. L'unité devant le Dieu, il faut le Dieu de la consommation, symbolisé peut-être par le sapin, excusez-moi de la comparaison, mais en tout cas pas autour de Jésus. En fait, ce bébé va séparer l'humanité. Comme un landau peut fendre la foule, rue d'Antibes. Devant un landau, on s'écarte, on va à droite, soit à droite, on le voit arriver, on se met à droite ou à gauche, on laisse passer le landau avec l'enfant, en tout cas si on est bien poli. Il y en a qui vont se placer à droite, d'autres vont se placer à gauche. Et il me semble que c'est ce que dit Jésus quand il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». L'épée non pas dans la violence, mais l'épée dans la séparation. Le landau de Jésus fend la foule, sépare la foule. Et il va même dans les familles, au sein d'une même famille, on va se placer différemment en fonction de la personne de Jésus. Et c'est douloureux, mais personne ne pourra rester au milieu. La question de Jésus ne permet aucune position médiane. Et je cite Christophe Payat, qui est doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine et qui est un pasteur des Églises libres, qui nous dit au sujet de ce verset « La violence, entre guillemets, de Jésus est celle du choix, un choix douloureux, tranchant, parce que l'attachement à Jésus ne vient pas simplement s'ajouter à tous nos autres attachements, au contraire, tous nos autres attachements doivent être redéfinis par rapport à notre attachement à Jésus. » Et devant cette prophétie de Siméon, on pourrait se demander si Noël 2019 n'était pas l'occasion de redéfinir justement nos attachements par rapport à notre attachement premier à Jésus. L'occasion de nous positionner tout à nouveau par rapport à Jésus. L'occasion de quitter un instant toute cette atmosphère de Noël et de me poser la question de Siméon, chute ou relèvement ? Pierre qui me fait trébucher ou rocher sur lequel je peux fonder ma vie ? « Qui dites-vous que je suis ?» demande Jésus à ses disciples à un moment clé de son ministère. Une image, une fête, un bon moment, une décoration de Noël, une figurine au milieu des santons. Ou le Fils du Dieu vivant qui me donne la vie, la vraie, et qui est un fondement sur lequel je peux bâtir une vie qui compte jusque dans l'éternité. La question de Siméon est pour nous aujourd'hui aussi. Après, vient une expression qui intrigue aussi. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Alors si on prend la définition du mot signe dans la Bible, c'est un phénomène frappant indiquant l'action de Dieu que nul ne peut ignorer. Phénomène frappant indiquant l'action de Dieu que nul ne peut ignorer. Et Jésus est manifestement le signe de l'action de Dieu dans le monde, le signe évident que Dieu s'intéresse à l'histoire de ce monde et à mon histoire et qu'il intervient, un signe que nul ne peut ignorer, comme le landau rue d'Antibes, mais que l'on peut contester, que l'on peut contredire. Et à l'époque de Jésus, on ne se privera pas de le contredire, de contester son autorité. Les pharisiens, les sadducéens, les romains, et puis tous les SDF de l'époque, c'est-à-dire les gens sans dénomination fixe. Jésus ne comptait pas que des amis, c'est clair. Alors on peut se demander pourquoi Jésus a suscité, et suscite encore aujourd'hui, autant de contradictions, d'oppositions, alors qu'il était un signe évident de l'amour de Dieu, de l'intérêt de Dieu pour le monde, et pour moi, et pour vous, et pour nous, et pour son peuple. Alors, pourquoi cette opposition, cette contradiction, cette contestation, alors qu'il est porteur d'une bonne nouvelle, alors qu'il est lui-même la bonne nouvelle ? Et il me semble qu'une partie de la réponse à cette question se trouve dans le fait qu'il n'était pas vraiment attendu comme le type à l'aéroport, comme le type qui attend à l'aéroport. On ne l'attendait pas comme il s'est présenté. Il y a eu comme une surprise, comme même une déception qui provoque la contradiction, la contestation, le conflit et finalement le rejet. On attendait un roi ou un leader, et c'est un serviteur qui vient. On attendait quelqu'un de puissant, et c'est quelqu'un d'extrêmement humble qui vient. On attendait un politicien, et c'est un religieux, mais pas tout à fait institutionnel, qui vient. On attendait un patriote énergique, et c'est un non-violent. On attendait un homme d'envergure, et c'est un meneur d'hommes, mais une bande de Galiléens pas instruits du tout. Brut de décoffrage, les disciples. Et ça fait beaucoup de déceptions. Jésus n'est pas celui qui était prévu, et les pharisiens, pour ne citer qu'eux, sont vraiment perturbés, ils ne savent plus trop où ils habitent. Ce Jésus, il est déstabilisant, il est déroutant. Et quand on est surpris, il y a deux possibilités. C'est comme dans les caméras cachées ou dans Surprise, Surprise, vous vous en souvenez. Ceux qui sont surpris, ils sont de deux ordres. Il y en a qui rient de bon cœur, qui se disent « Ah, c'était chouette !» et puis qui se disent « On va continuer l'aventure. Ben oui, je suis prêt. » Puis il y en a d'autres qui se cabrent. Moi, j'aime pas les surprises, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce désordre? Et on peut refuser la surprise et rester fixé sur son petit plan initial où l'on se sent en sécurité et très confortable. Et on affiche sur sa porte, vous savez, comme dans les hôtels, « Ne pas déranger ». Do not disturb. Aujourd'hui, Jésus dérange parce qu'il n'est pas attendu. Cependant, les attentes sont nombreuses. Les espoirs également d'une vie meilleure, d'un monde meilleur, d'un avenir meilleur. Et il y a toujours dans notre monde un vide en forme de Dieu, dans notre cœur un vide en forme de Dieu, comme le disait saint Augustin. C'est évident, c'est manifeste. Il y a une soif, il y a un manque. Mais bizarrement, Jésus ne fait pas partie de la solution. La solution se trouve évidemment dans le politique, dans l'économique, dans l'humanitaire, dans l'écologique, dans le technologique ou dans le spirituel à bon marché. Et quelque part, l'homme d'aujourd'hui est comme le pharisien de l'époque, la solution, je m'en charge. Mais toi, Jésus, reste dans ta crèche, reste dans le folklore, ne viens pas bousculer les plans du monde qui marchent très bien, relativement bien, sans toi. Tu n'es pas attendu, tu n'es pas le bienvenu. Et l'histoire de l'auberge qui n'avait plus de place pour accueillir Jésus se répète à l'infini dans notre monde fini. Et Jésus l'a bien dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y a un problème d'hospitalité dans notre monde. Alors on pourrait sombrer dans le défaitisme ou le repli identitaire, celui du petit groupe du 89 rue Georges Clémenceau qui se dit « Nous, on l'a accueilli. Nous, on est fiers d'avoir accueilli Jésus. » Le repli identitaire. Eux ne l'ont pas fait, nous on l'a fait. Mais quand on lit l'évangile, quand on lit la vie de Jésus, on s'aperçoit que Jésus n'est jamais tombé dans ses mécanismes de défense et de repli sur lui. Il a pu dire des choses extraordinairement dures envers les pharisiens et le monde en général, mais en même temps, pour ce monde, il s'est engagé. Il s'est engagé complètement avec ce monde, dans ce monde, avec tout son amour, avec toute sa personne. Il s'est engagé dans ce monde ténébreux, jusqu'à aller à la croix, comme on l'a chanté tout à l'heure, manifestation, signe évident aussi de son amour. Un événement que Siméon entrevoit déjà, puisqu'il va dire à Marie, « Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » L'engagement de son fils Jésus va transpercer le cœur de sa mère parce qu'il s'agit d'un engagement total pour ce monde. Parce que ce bébé porteur d'espoir, bébé glorieux, est destiné à payer le prix fort pour le salut des hommes. Jésus, la lumière, s'engage dans ce monde de ténèbres. Et on peut penser que par cet engagement de Dieu dans le monde, certains vont se laisser surprendre, qu'ils vont laisser tomber leur plan initial, bricolé au fur et à mesure de la vie, et se laisser renouveler par Jésus. Il y a de l'espoir, c'est Noël. Mince alors. J'en veux la preuve que certains vont se laisser surprendre, ce témoignage de Khalida. C'est une fille marocaine. Ses parents sont arrivés en France en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie. Là. Et toute la famille, 8 enfants, ils ont été parqués à Aulnay-sous-Bois. Le père déraciné vit mal ce déracinement et il devient plus religieux et dur aussi, violent parfois. Son grand frère, le grand frère de Khalida, se tourne vers la drogue, tombe dans la drogue, meurt de la drogue. Mais Khalida cherche Dieu, c'est une jeune fille. Elle lui écrit des poèmes. Elle écrit des poèmes à ce Dieu qu'elle connaît mal, qu'elle connaît peu. Mais elle ne parvient plus à prier. Elle attend quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Elle est allée voir les témoins de Jéhovah, mais insatisfaisant. Elle est allée voir les guérisseurs aussi, mais sans résultat. Sinon, le désespoir. Et un jour, après avoir appelé Dieu de tout son cœur de petite fille ou de jeune fille, elle rencontre un couple chrétien et elle a été interpellée par leur témoignage, surtout du mari qui est marocain et qui lui aussi a touché à la drogue comme son frère. Et après cette rencontre, elle leur dit « Moi aussi, je veux connaître ce Jésus qui donne la paix. » Et elle raconte qu'elle lit les évangiles et qu'elle s'est sentie saisie par la vie de Jésus. Saisie par Jésus, par la vie de Jésus. Et elle s'est donnée à lui. Elle ne dit rien à son père pendant 5 ans. Et quand elle le lui dit, il s'énerve. Et il lui promet qu'elle ira en enfer si elle continue à suivre le chemin de ses mécréants. Il y a de la contradiction dans la famille de Khalida, mais elle tient bon. Et elle écrit que pour elle, il n'y a qu'une vérité. Et elle cite Jean 14. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Et ça, elle termine son témoignage avec ce verset. Et en lisant ou en écoutant ce témoignage de Khalida, on se dit que tous les espoirs sont permis, parce que s'il y a un temps pour la contestation, s'il y a un temps pour l'opposition, s'il y a un temps pour la contradiction, il y a un temps aussi pour la conversion à Jésus, pour l'accueil de la lumière, pour l'ouverture à l'amour de Jésus. Il y a un temps pour se donner à Jésus, pour se repositionner par rapport à Jésus. Il y a un temps pour prendre Jésus dans ses bras, comme Siméon à l'aéroport. Mes yeux ont vu le Sauveur. Oui, chers amis, il y a un temps pour Noël. Amen.